www.libradio.org, la radio comme en famille. Deviens meilleur, rejoins la gang, il y siège des trésors.
Bonjour Lotfi.
Bonjour.
Alors nous nous rencontrons ici à Unimail parce que dans quelques jours, plus précisément le jeudi 26 septembre à 18h, ici à Unimail dans la salle MS150, donc c'est la salle au sous-sol, en arrivant côté tram, eh bien aura lieu une conférence que vous organisez vous. Alors on va tout de suite dire l'intitulé de la conférence. De l'inquiétude à l'incertitude, l'Algérie est au cœur des débats. L'association du monde arabe de l'université de Genève, l'AMAJ, dont tu fais partie, invite Akram Belkaïd, jeudi 26 septembre à 18h, on l'a dit, à la salle MS150. Certainement, tu vas présenter l'orateur, bien entendu. On peut dire qu'il est journaliste et essayiste algérien, né en 64, donc c'est encore un jeune homme. Voudrais-tu peut-être aller un peu plus loin? Puis ensuite, on parlera également de l'AMAJ, de qui êtes-vous, vous, les organisatrices et organisateurs?
Tout à fait. D'abord, merci de prendre du temps pour m'interviewer. Et ensuite, donc, Akram Belkaïd, en fait, est un journaliste et essayiste. Donc, il travaille justement au journal du monde diplomatique. Il fait énormément de chroniques, notamment sur l'Afrique du Nord et sur le Moyen-Orient. Il a également, donc, des chroniques quotidiennes, deux chroniques quotidiennes, en Algérie, concernant l'économie ainsi que le sport. Il fait énormément d'interventions également à la télé, comme France 24. Et il a aussi participé à de nombreux documentaires, dont le plus récent, donc, qui s'appelle « L'Algérie, promesse de l'aube », qui a été diffusé sur Arte et produit par Kappa.
Le livre que vous citez, son livre que vous citez, c'est « L'Algérie, un pays empêché en sans question ».
Tout à fait.
Ça, c'est de là que vous êtes parti pour vous dire on va l'inviter, on va le faire venir, on va essayer de le faire venir à Genève.
Donc, en fait, c'est plutôt un tout, comme je vous ai dit, c'est-à-dire de par le fait qu'il est assez polyvalent, donc il est présent via de nombreux canaux, comme la télévision ainsi que les livres. Donc on s'est dit que ce serait une opportunité à ne pas rater de l'inviter. Donc pour être honnête, donc la première fois c'est ma mère qui m'en a parlé. Donc elle l'a approché d'abord via les réseaux sociaux. Et ensuite il a gentiment accepté et puis on a après pris le relais pour justement la mise en place de la conférence ainsi que l'organisation.
Il est notamment chroniqueur au quotidien d'Oran, donc il y a un quotidien francophone.
Exactement.
À Oran.
Exactement.
Alors, venons-en en quelques mots, bien sûr qu'on ne pourra pas résumer ça à quelques mots, mais à la situation en Algérie. Et au pourquoi vous aviez envie, justement, à l'AMAJ, d'organiser une conférence à ce propos.
Voilà, donc ce qui se passe en Algérie est vraiment un sujet d'actualité. Donc, c'est-à-dire, après 20 ans des mandats présidentiels donc, du président Abdelaziz Bouteflika, donc il voulait se présenter pour un cinquième mandat et le peuple, à ce moment-là, a justement protesté dans tout le pays. Il y a eu des protestations massives et en particulier à Alger pour justement que le président Bouteflika démissionne. Donc ensuite, une fois qu'il a démissionné, ça ne s'est pas arrêté là. En fait, les revendications, c'est la fin du système, en fait, qui est présent en fait depuis l'indépendance. Et le but étant d'aller vers en fait une transition pour avoir justement une seconde république, pour simplifier les choses.
Alors justement, quelles sont-elles ces revendications?
Donc,
principal, disons.
Donc voilà. Donc en fait, les revendications principales, c'est surtout la démission en fait de tous les symboles du pouvoir. Donc à l'heure actuelle, il reste encore deux personnes. Donc Abdelkader Ben Salah, donc qui est en fait le président par intérim, et Nordin Bedoui, qui est le premier ministre. Et puis aussi, en fait, surtout que l'armée puisse en gros, aller vers cette transition. Et pour l'instant, en fait, si vous voulez, il y a un bloc, c'est-à-dire d'un côté, il y a le pouvoir en place, donc c'est-à-dire l'armée ainsi que les deux hommes en place dont je vous ai parlé. Il y a également un autre homme mentionné qui est le chef d'état-major, Ahmed Gaid Saleh, qui également est avec trois personnes. Donc du coup, eux, ils veulent en fait le maintien du système tel quel avec une organisation d'élections. Et ils promettent en fait des élections, c'est-à-dire impartiales, sans qu'il y ait aucune mainmise du système actuel. Donc, et le peuple, lui, il veut vraiment aller vers cette transition. Donc c'est en fait la situation où on en est.
D'accord. On va revenir à la notion d'élection, mais avant cela, que le reproche-t-on à cette vieille classe politique ?
Bah écoutez, je pense de nombreuses choses, c'est-à-dire le problème déjà c'est que à la base c'est que le pouvoir a été en fait confisqué aux mains d'une élite Et surtout, le souci, c'est la manière dont a été géré le pays, de telle sorte en fait que le pays s'est surtout reposé sur une rente pétrolière et gazière. Et en fait, il y a aussi de nombreux aspects qui ont été laissés de côté, tels que, par exemple, l'éducation, la santé également. Et donc, du coup, le souci, c'est surtout que la jeunesse, en fait, ressent qu'il n'y a aucune perspective dans un pays qui, pourtant, en présente énormément. Donc, le but étant de, voilà, de, en fait, c'est-à-dire vraiment de changer les choses qui, à mon avis, sont fondamentales et qui sont respectées dans de nombreux pays, mais qui, en Algérie, à mon avis, faut qu'elles se mettent en place.
D'accord. Peut-on dire qu'en Algérie, il y a une Algérie des villes et une Algérie des campagnes en termes justement de revendications et de mobilisation, ou alors une Algérie des jeunes et une Algérie des aînés, ou est-ce qu'on voit que c'est une dynamique transversale qui a cours ?
C'est très intéressant comme question. Alors de mon point de vue, en tout cas de ce que je vois et quand j'ai parlé avec les gens, c'est plutôt transversal, c'est-à-dire autant évidemment les jeunes, mais également les plus anciennes générations, parce qu'en fait ils ont été évidemment conscients de ce qui s'est passé, c'est-à-dire avec l'ère aussi notamment de la guerre civile, parce qu'il y a eu des premières protestations donc en octobre 88 qui a mené à 10 ans de guerre civile. Donc je pense que tout le monde est conscient de la situation et œuvre ensemble pour changer la situation en tant que tel.
Les rapports avec les pays voisins, quels sont-ils ? Avec la Tunisie, avec le Maroc ?
Ouais. Alors, bon, très bien. En fait, avec le Maroc, malheureusement, c'est à l'heure actuelle, donc les relations diplomatiques ont toujours été tendues historiquement depuis, en fait, le conflit avec l'histoire du Polisario, enfin du Sahara occidental qui voulait son indépendance. Donc, depuis, la situation a été assez tendue. C'est vrai que ça ne s'est pas calmé au fil des années. Donc, de telle sorte, en fait, si vous voulez, que tout Algérien ou tout Marocain doit demander un visa pour les pays respectifs afin de pouvoir y aller. Avec la Tunisie, je dirais que les relations sont assez cordiales, mais disons que je pense qu'il y a lieu de développer cela davantage, autant sur le plan diplomatique que sur économique et commercial.
Ok. Qu'en est-il des Algériens de l'extérieur ? Qu'en est-il également des pieds noirs ou dans leur descendance ? Se détermine-t-il par rapport à ce qui se passe en Algérie ? J'imagine que pour certains d'entre eux, c'est un arrachement. Enfin, ils sont sensibles à ce qui s'y passe.
Oui, tout à fait. Alors, d'abord, pour les Algériens de l'étranger, évidemment, généralement, ils sont... Enfin, moi-même étant Algérien, donc je suis très attaché à ce qui se passe dans mon pays d'origine. Je pense qu'évidemment, c'est très important que les choses puissent changer vers la bonne direction, parce qu'après, ça va donner une dynamique, c'est-à-dire la diaspora peut rapporter, à mon avis, une contribution non négligeable. Concernant les pieds noirs, je pense qu'ils ont également un attachement, à mon avis... C'est-à-dire que quand on voit historiquement, ils ont quitté le pays à contre-cœur, si vous voulez, parce que la situation faisait que les tensions étaient telles qu'ils ne pouvaient malheureusement pas rester. Donc, je pense également que si en fait la situation pouvait s'éclaircir au niveau politique, ils seraient à mon avis très heureux et seraient même les bienvenus en Algérie.
Mmh. Qui compose toutes ces personnes qui sont dans la rue et qui depuis des mois et des mois protestent? Y a-t-il une population qui, d'une certaine manière, est un peu la locomotive? Je pense par exemple aux étudiants ou alors à la classe ouvrière ou pas?
Alors, d'abord, en fait, si vous voulez, il y a deux, donc pour les protestations, en fait, les manifestations, il y a deux jours. Donc il y a le mardi où c'est exclusivement étudiant, donc tous les étudiants en fait sortent pour protester. Et ensuite, vendredi, c'est toute la classe en fait, toute classe confondue de la population qui manifeste. Donc, voilà, c'est-à-dire à mon avis, c'est-à-dire à tous les niveaux, tout le monde est concerné par ce qui se passe et veulent également apporter la contribution pour changer les choses.
On peut dire que c'est loin d'être à bout de souffle.
Exactement. Exactement.
C'est bien, c'est bien. On peut dire qu'il y a un maintenant, un après, enfin quelque chose oui. S'est déclenché qui ne reviendra pas en arrière.
Tout à fait, exactement. Après, par contre, je pense, comme je vous ai dit, c'est-à-dire il y a également en fait il y a quand même un barrage qui est non négligeable et il faut continuer parce que le pouvoir en fait est toujours en place et je pense que les Algériens se sont comportés de manière exemplaire et je pense que ça doit continuer. C'est-à-dire il ne faut, enfin à mon avis. C'est-à-dire accepter les élections, à mon avis, serait dommage parce qu'après, ça mettrait un coup de frein justement au mouvement, à mon sens.
Oui, alors là, on va revenir là-dessus, effectivement. Dernière petite question concernant, pour essayer de poser quelques jalons concernant ce qui se passe en Algérie.
Oui.
Y a-t-il des figures tutélaires desquelles le mouvement s'inspire ou bien, justement, à l'inverse, pas, on ne veut pas personnaliser ça? Je veux dire, est-ce que, par exemple, il y a une figure comme, si on prenait la Tunisie comme Bourguiba, qui émergerait et qui inspirerait, qui soit inspirante?
Alors justement non, non justement il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas à l'heure actuelle, c'est-à-dire il n'y a pas de leader du mouvement qui a rallié en fait. C'est peut-être ce qui manque. Ou alors ça, après ça c'est, ça je sais pas, mais effectivement non, c'est une concertation. Je sais qu'il y a également des groupes de discussion, si vous voulez, surtout qui essayent de se mettre d'accord, de se coordonner sur les protestations, mais il n'y a pas une figure, si vous voulez, qui incarne le mouvement,
ouais. Ou qui orienterait.
Exactement, non. Pas
on peut dire qu'il y a une indépendance, une autonomie qui est affichée, donc également des partis politiques et de tout le monde. L'idée, c'est d'éviter les récupérations.
Exactement. Exactement.
Alors parlons d'influence justement quelques instants. On sait que la France a été longtemps évidemment impliqué.
Oui.
Y a-t-il encore des résidus de l'OAS, de la France-Afrique, de ces choses-là? Est-ce qu'on sent qu'il y a une volonté, qu'elle soit affichée ou insidieuse, de la France d'intervenir d'une certaine manière en Algérie?
Alors, à l'heure actuelle, je pense qu'ils sont plutôt prudents. Enfin, en tout cas, je n'ai malheureusement pas toutes les informations, mais je vois qu'il y a des discours du président Macron que j'ai pu entendre, il était assez prudent sur le sujet. Je pense qu'ils attendent de voir comment les choses se déroulent avant de tenir une position finale. Mais évidemment, par le passé, effectivement, la France a eu énormément d'influence sur l'Algérie, même après l'indépendance. D'ailleurs, Naoufel Brahimi El-Mili a écrit 2 livres sur France-Algérie, donc 50 ans de relations secrètes. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut effectivement pas négliger. Le peuple en est conscient.
Mm-hmm.
Et justement, il veut, en tout cas, il est catégorique et il veut éviter toute forme d'ingérence étrangère. Donc voilà.
Très bien, très bien. Alors voilà, venons-en à ce peuple qui, du coup, retrouve une unité autour de ces combats-là. Alors, quelles en sont les aspirations? On parlait de vote, d'élection. Est-ce que c'est ça vers quoi on veut aller? C'est vers vraiment de renverser complètement les modalités de fonctionnement, les infrastructures, tout ça.
Oui, je pense que c'est ça. C'est-à-dire vraiment, c'est de repartir de zéro, en fait. De repartir de zéro et puis surtout de repenser en fait à un système politique qui en fait conviendrait au peuple algérien en tant que tel. Donc évidemment dans l'idéal, c'est-à-dire que le peuple ait son mot à dire, c'est-à-dire qu'il soit écouté, et puis que ce soit un système qui soit dynamique, qui permet en fait au pays d'avancer de manière efficace et d'avoir en fait une place de choix sur le plan international. Donc je pense que oui, c'est ça, c'est vraiment recommencer à zéro, et à mon avis le peuple est disposé pour travailler en ce sens.
D'accord. Alors tu l'as cité, la communauté internationale, selon toi quel est le regard extérieur sur ce qui se passe en Algérie? Que disent les pays voisins ou les pays plus loin? Que dit la France? Que disent les instances internationales telles que l'ONU par exemple? Premier volet de la question. Deuxième volet, c'est et en Algérie, à l'intérieur, comment ça se passe? La répression a-t-elle cours? Est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Ou voilà, dépeins-nous un petit peu la situation depuis ta position à l'intérieur et ce regard de l'extérieur.
D'accord. Alors donc de ma position à moi, donc je suis extrêmement favorable à ce qui se passe, c'est-à-dire le peuple parle et je pense que leurs revendications sont tout à fait légitimes, parce que de moi-même allant énormément en Algérie, donc je vois la situation en tant que telle, et évidemment les choses doivent changer. Donc je suis tout à fait favorable à tout processus démocratique. Après, au niveau de la communauté algérienne en tant que telle, bon, les avis sont peut-être un peu plus partagés, je dirais, parce qu'il y en a certains qui... Enfin, je pense que la plupart sont contents de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a quand même une lueur, une chance que les choses peuvent potentiellement changer. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent être un peu plus pessimistes sur la situation en disant que voilà, le système est en place, les choses sont verrouillées et je ne vois pas pourquoi, même si les choses changent, je pense que ça n'ira pas forcément dans le bon sens.
Mmh.
Mais je pense que la majorité est assez favorable.
Depuis les instances internationales, y a-t-il des signaux intéressants?
Alors écoutez, en tout cas pas que je sache, c'est-à-dire je pense qu'il y a surtout une attente à mon avis pour voir comment les choses vont tourner avant de tenir peut-être une position.
D'accord. Donc. Qu'en est-il de la répression? Est-ce qu'elle a cours? Est-ce qu'elle est féroce? Est-ce qu'on s'en protège?
Alors au début justement il n'y avait pas de répression. Enfin il y avait très peu de répression, c'est-à-dire donc la police comme l'armée en fait laissait le peuple faire. Mais si vous voulez, il faut quand même noter que il y a eu quand même des emprisonnements donc de certains opposants politiques. Donc ça a commencé par là. Et puis depuis en fait l'annonce d'une élection présidentielle en fin d'année, les répressions ont augmenté. C'est-à-dire les arrestations arbitraires ont augmenté. Et puis ils ont renforcé en fait le dispositif de barrage à l'entrée d'Alger pour éviter justement que les gens en fait, des banlieues puissent venir manifester.
On peut dire que dans la longueur, il y a une crispation du pouvoir en place
tout
qui se sent délogé.
Exactement, tout à fait. Tout
d'accord.
À fait. C'est exactement ce que c'est.
Alors, l'actualité, c'est continuer, et là on va en venir ensuite à la conférence, c'est de continuer cette lutte. Peut-on dire qu'elle est effectivement de longue haleine et qu'elle va durer? Selon toi, comment est-ce que tu observes ça de ta position?
En fait, oui, j'ai l'impression qu'elle va durer. Enfin, elle va durer un certain temps parce que, en fait, si vous voulez, je pense que peut-être le problème, c'est justement qu'il n'y ait peut-être pas cette figure, ce leader, cette personne qui incarne en fait le mouvement, qui peut-être donne peut-être qui peut dire au peuple, voilà, cette personne-là ou un groupe simplement de personnes peut représenter et peut mener le pays vers une transition politique. Et puis en même temps, bon, il y a aussi l'armée qui est quand même du côté du pouvoir à l'heure actuelle, donc c'est une donnée non négligeable. Par contre, je pense que, si vous voulez, c'est-à-dire, je pense que ça ne devrait pas durer non plus éternellement, parce que, si vous voulez, en général, ce qui se passe, c'est que, de ce que j'ai vu, si vous voulez, tous les successeurs, tous les gens qui sont au pouvoir ont deux choses. Donc, soit, en fait, ce sont des gens qui ont participé à la guerre de l'indépendance, donc ils tiennent, en fait, cette légitimité, soit, en fait, ce sont des militaires. Mais si vous voulez, la plupart, en fait, la classe, ces gens qui ont participé à la guerre d'indépendance sont tous assez âgés quand même. Et ainsi que la caste de l'armée, donc des généraux qui ont également participé, sont également âgés. Donc je pense quand même qu'il va quand même y avoir également une génération qui a un autre œil. Donc à mon avis, voilà.
Un changement mécanique, disons.
Tout à fait.
Ouais. Selon toi, quels sont les risques qui pourraient émerger? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à une guerre civile?
Voilà, ça c'est c'est ma grande préoccupation en fait. Ce serait évidemment le pire scénario. Après, bon, peut-être quelque chose de, on va dire un peu plus sur le moyen court, moyen terme, c'est-à-dire que l'armée
fasse un putsch.
Fasse un putsch parce qu'il est du côté du pouvoir, mais c'est que l'armée en fait fasse les répressions. Voilà, participe activement aux répressions.
Un peu comme a fait Franco en Espagne, c'est un putsch militaire, c'est-à-dire une prise de pouvoir des.
C'est-à-dire si vous voulez en Algérie, c'est-à-dire en fait l'armée a toujours été en fait dans l'ombre. Elle n'a jamais réellement quitté le pouvoir, si
d'accord.
Vous voulez. Justement, Akram Belkaïd utilise une expression dans le documentaire, donc l'Algérie, les promesses de l'aube, qui disent que l'armée est en fait un faiseur de rois. Donc, c'est-à-dire, voilà, ils choisissent entre un civil ou un ancien militaire qui incarne en fait le pouvoir, mais au final, c'est eux qui dirigent derrière. Donc, ça a toujours été le cas, et je pense que évidemment, ils ne veulent pas lâcher en fait cet aspect.
Ouais, ouais. Il faut désenchevêtrer un petit peu tous ces rouages du pouvoir.
C'est tout à fait ça.
Je comprends. Comment est-ce qu'on peut depuis ici s'informer, se contre-informer par rapport à ce qui se passe en Algérie, trouver les bonnes informations?
Alors, écoutez, donc je trouve que déjà les sources journalistiques, enfin quelles qu'elles soient, c'est-à-dire déjà francophones, autant que ça peut être, par exemple, voilà, les France 24, les quotidiens comme. Tout ce qui peut être Le Monde, Libération, Afrique, Jeune Afrique aussi.
Ouais, ouais, ouais.
Et les quotidiens également algériens qui dépeignent une situation assez réaliste. Donc je pense qu'il y a pas mal de sources d'informations valables. Et on dirait que le pouvoir pour l'instant, en tout cas pour les quotidiens algériens, ne freine pas en tout cas la presse.
Est-ce qu'on a des retours, osons le mot, du monde arabe? Y a-t-il des gouvernements qui ont cligné de l'œil ou qui ont dit « Ah, c'est pas mal » ou est-ce que tout le monde, évidemment, s'en défend en sachant que ça pourrait être, si on s'exportait, ça pourrait être problématique chez nous?
Non, justement, alors à l'heure actuelle, non, il n'y a pas eu de retour donc du monde arabe, c'est-à-dire que ce soit des soutiens ou des protestations, en tout cas ouvertes, je dis bien. Évidemment, ça en dérange plus d'un parce que, tous les régimes qui sont là-bas sont des dictatures, qu'on puisse le dire. Et non, pour l'instant rien. Mais je pense que ce qui se passe en Algérie s'opère en succès, ça encouragera d'autres pays arabes à le faire.
La contagion.
Exactement. J'ai entendu aussi en Égypte récemment, il y avait également des protestations face au gouvernement d'Al-Sisi. Donc voilà.
D'accord. Ça peut faire partie
tout à fait.
Également de.
Ouais. Tout à fait.
Alors, on va peut-être citer donc le conférencier Akram Belkaïd. Alors, je prononce mal, mais tu me corrigeras.
Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun mal.
Je crois qu'il a un blog qui est le suivant, pleinelunebagdad.blogspot.com, sur lequel on peut trouver des textes.
Exactement.
Donc, www.pleinelunebagdad.blogspot.com. On mettra au libellé du podcast, évidemment, l'adresse. Quelques mots de l'AMAJ, l'Association du monde arabe de l'Université de Genève.
Oui, alors, donc en fait, notre association a pour but de promouvoir la culture arabe donc à travers différents canaux. Donc tout d'abord, cette association est ouverte à toute personne qui est intéressée en fait à la culture arabe. Et donc promouvoir la culture arabe, par exemple l'année dernière où nous avons organisé donc c'est-à-dire un concert, donc c'était un concert cette fois de Chaabi algérien dans ce cas-là, mais il y a eu également donc la conférence de Georges Corme donc à propos du Liban, et voilà, c'est-à-dire promouvoir chaque pays, différentes régions, et puis aussi peut-être enrichir même notre savoir, parce qu'il y a des choses, par exemple personnellement moi, que je ne sais pas énormément sur le Moyen-Orient, et c'est toujours intéressant de se plonger dans ces univers.
Quels sont les principaux questionnements, en quelques mots, hein, parce que évidemment on pourrait en parler pendant tellement de temps, mais quels sont les principaux questionnements des personnes qui vous accostent, qui vous approchent, qui ne sont peut-être pas, alors, deux volets. Les personnes qui vous accostent et qui sont totalement, disons, étrangères au monde arabe et à la langue arabe, parce qu'on peut ne pas mais pratiquer apprendre la langue ici à l'université. Et de la même manière, qu'en est-il des personnes qui sont justement ces personnes qui sont parties à un moment donné et qui peut-être redécouvrent des origines, des racines?
Bah, écoutez, je pense que c'est-à-dire surtout en fait ils sont très curieux de manière. Alors il y en a par exemple ils sont très curieux parce qu'aussi ça peut être le fait d'intégrer cette association peut après leur redonner envie par exemple à ceux qui ne parlent pas forcément la langue arabe de prendre par exemple des cours d'arabe pour pouvoir justement se rapprocher davantage de leur culture d'origine. Les gens aussi qui sont intéressés à la MAJ font également des études notamment qui peuvent porter par exemple sur le Moyen-Orient, donc ça peut également compléter leurs connaissances. Et puis bon, c'est également en fait un moyen de participer pour en fait un sujet ou un domaine qui puisse nous tenir à cœur.
Effectivement, c'est aussi toute une géopolitique extrêmement intéressante, extrêmement sensible.
Tout à fait.
Jusque évidemment en Palestine, enfin voilà, tout ça. Quoi.
Absolument.
Est-ce que l'utilisation de la langue française, qu'en est-il? C'est une question très personnelle. Qu'en est-il en Algérie? Est-ce que c'est une revendication d'un certain groupe de personnes ou est-ce que c'est la norme? Est-ce que c'est culturellement, c'est là et ça va le rester? Ou est-ce que des fois on dit, comme nous, on pourrait dire, oui, mais des fois l'anglais, on l'utilise trop, c'est la langue de l'impérialiste?
Oui, alors. Donc, au début, si vous voulez, peu après l'indépendance, donc la langue française était très utilisée. Et puis, en fait, il y a eu une politique d'arabisation qui a été menée par Boumédienne. Et en fait, c'est-à-dire la langue française a progressivement, donc son utilisation a progressivement diminué de telle sorte, si vous voulez, que les générations actuelles ne maîtrisent peut-être pas aussi bien la langue française qu'à l'époque de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc effectivement, il y a aussi concernant l'aspect impérialiste dont vous parlez, donc c'est effectivement une revendication parce qu'ils disent justement comme la France s'est énormément ingérée dans les affaires de l'Algérie, pourquoi justement accepter une langue concernant un pays qui voudrait nuire en fait aux intérêts donc de l'Algérie. Il y a eu, juste peut-être une petite parenthèse, donc par rapport à la langue française, il y a eu un changement intéressant. Donc dans le milieu académique, en fait, ils ont décidé de passer donc dans la recherche plutôt à l'anglais, donc faire les publications en anglais plutôt qu'en français. Donc bon, ce qui est pour moi un très bon choix parce qu'en fait, toutes les publications scientifiques se font en anglais. Et évidemment, pour avoir plus de visibilité, il est logique d'utiliser la langue anglaise. Mais à l'heure actuelle, voilà, c'est-à-dire c'est vrai que le français, l'influence du français a diminué. Je pense que c'est dommage, à mon sens, à mon avis, dans l'idéal, évidemment, l'arabe comme le français devrait être maîtrisé à part égale parce que ce sont deux langues et deux cultures différentes. Et en fait, en tant qu'Algérien, ça nous donne quand même une ouverture sur à la fois le monde arabe et ainsi que la France et l'Europe de manière générale.
Très bien. Alors, ce sera jeudi 26 septembre à 18h à Unima, ici, à la Salem S150. L'Algérie est au cœur des débats en présence avec le conférencier, journaliste au monde diplomatique, écrivain et auteur également, Akram Belkaïd, de l'inquiétude à l'incertitude. Eh bien, une autre Algérie est-elle possible? C'est ce que vous notez. Alors, selon toi, selon vous, une autre Algérie est-elle possible?
Alors oui, tout à fait. Je pense qu'une autre Algérie est possible. Elle a, à mon avis, ce pays a toutes les qualités pour justement réussir sa transition. D'abord, elle a une population jeune. Elle a beaucoup de ressources, en plus du gaz et du pétrole. Elle a énormément de ressources où elle peut développer l'industrie, l'agriculture. Également le tourisme, qui n'est pas en fait un aspect à négliger. Donc non, je pense qu'elle a énormément de capacités et peut devenir en fait un pays de premier plan en Afrique et également à l'interface méditerranéenne.
Voilà, exactement. On va terminer sur ça. L'Algérie peut-elle également rassembler, être un moteur, un vecteur de ce rassemblement régional?
Pour moi, je suis convaincu, en tout cas. Mmh. Oui, absolument.
D'accord. Dernière question, avant que l'on s'arrête là, à moins que tu souhaites intervenir et en rajouter, bien entendu. les infos, le site internet, la MAJ, où est-ce qu'on vous trouve si on souhaite vous accoster ou si on souhaite en savoir un petit peu plus sur ce qui va se passer? On le rappelle, jeudi 26 septembre, 18h, ici à Unimail, salle MS150.
Donc c'est principalement la page Facebook, donc c'est principalement la page de la MAJ. Après, donc pour des questions, ça, on peut également recevoir des emails, donc amaj@unige.ch. Donc c'est les moyens de nous atteindre. Et puis aussi, voilà, donc il y a aussi, si on est éventuellement intéressé d'intégrer l'association ou pour d'autres questions, on est tout à fait disposé à répondre.
D'accord. Et vous êtes toujours un petit peu à la recherche de nouveaux membres, de quelques fonds
Bien sûr, bien sûr, toujours. C'est très important parce qu'en fait, justement, pour l'argent est le nerf de la guerre.
Bien sûr.
Et bien sûr aussi, toute personne voulant contribuer, ça va également aider à notre cause pour justement pouvoir promouvoir au plus de monde possible.
Toutes et tous, qu'on parle ou pas l'arabe, bien entendu.
Tout à fait. De toute manière, donc dans l'association, on parle en français, donc tout le monde parle français et il n'y a aucun souci de...
Avez-vous des pairs, PIRS, en Algérie ou un peu ailleurs qu'ici à Genève, qui, disons, des collectifs un petit peu analogues avec lesquels vous communiquez?
Alors, écoutez, à l'heure actuelle, non. Malheureusement, je pense que ce serait effectivement une très bonne idée. Donc déjà, si vous voulez, cette conférence est pour moi un premier pas.
D'accord.
Parce que j'ai intégré l'association il y a un an, mais effectivement, j'ai à cœur de... d'effectivement justement peut-être travailler un peu plus sur cet aspect qui pourrait être très intéressant, donc autant pour la MAJ que pour aussi ces gens, ces personnes en Algérie qui ont les mêmes, justement, qui partagent les mêmes idées que nous. Donc oui, tout à fait, ce serait...
Okay. Et puis pour en finir, presse et médias en Algérie, quelle est la situation? Est-ce qu'on peut dire que c'est une presse muselée ou justement à l'inverse, critique? Ou comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des blogueurs? Est-ce que l'info est fluide?
Oui, là, à l'heure actuelle, l'info est effectivement fluide. Donc la presse n'est pas encore muselée. Donc je pense que voilà, peut-être aussi, à l'heure actuelle, l'armée est peut-être réticente pour lancer une répression complète. Donc voilà, c'est-à-dire, je pense que à l'heure actuelle, on peut toujours s'informer, et je pense que surtout, ça va être ces mois à venir vont être décisifs, et ça marquera, à mon avis, le tournant du mouvement.
Et donc restons en alerte, et justement en se contre-informant, notamment en venant à la conférence d'Akram Belkaïd, donc jeudi 26 septembre ici à 18h à Unimail, salle MS150. Pour en terminer complètement, cette fois-ci, de quoi auriez-vous besoin au sein de l'association? On l'a déjà vu, donc des nouveaux membres, des personnes qui, des fonds éventuellement, des dons, et également, peut-on lancer un appel? Est-ce que vous recherchez également des lieux où vous pourriez vous exprimer, faire de l'information?
Totalement, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr, non, bien sûr. C'est-à-dire, en fait, voilà, le plus d'opportunités on a de s'exprimer, le plus c'est toujours bénéfique pour la MAJ, donc oui, tout à fait.
D'accord. Est-ce qu'on en reste là ou est-ce qu'il y aurait un autre commentaire avec lequel tu souhaiterais terminer?
Non, écoutez, je pense que tu as en fait tout dit. Ça a été parfait. Donc voilà, je me réjouis en tout cas de cette conférence.
Très bien. Bah, merci beaucoup.
Merci
et bonne
toi.
Conférence.
Merci
à bientôt.
Beaucoup.
Ciao.
Merci.